EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans la table avec Annabelle. Alors j'espère que vous passez un bon début d'année, on a déjà eu un bon début de semaine et on va finir cette semaine avec Cédric. Cédric était déjà venu nous voir l'année dernière pour nous parler de finances, il est encore là pour nous parler de finances parce que tu es toujours formateur, coach en finance et tu aides les particuliers, les entrepreneurs à pouvoir développer une mentalité, une bonne mentalité pour développer leurs finances et pour que l'argent soit pas non plus un frein dans leur vie et dans nos vies et prendre de bonnes habitudes financières. Et écoute, tu nous avais donné de bons conseils l'année dernière. Les avons-nous suivis? Nadège n'était pas là, donc là cette année.
Moi j'attends parce que moi j'aimerais bien devenir riche.
Super, super, on va travailler
Aurélie
ça.
Aurélie et Nadège, en fait, pour être ensemble.
Ah oui.
C'est pour ça que j'ai pas mis les deux sur le plateau aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on va voir ensemble comment encore cette année on peut prendre de bonnes habitudes, nous rappeler ces bons conseils et puis peut-être faire un petit update par rapport à l'année dernière. Mais avant qu'on puisse y aller, j'aimerais vous lire un témoignage de Christelle suite à la conférence Réveil et guérison qu'on a pu avoir en novembre dernier. Je me nomme Christelle du Cameroun et lors de la deuxième journée de la soirée Réveil et guérison, pendant que la femme du pasteur, donc Josiane Traxel, priait, après avoir raconté un bout de son histoire de viol que j'ai également vécu dans l'enfant, j'ai été saisie du Saint-Esprit qui m'a délivrée de ses blessures et que je continuais de porter et qui avait littéralement un impact sur mes émotions. Puis Dieu m'a dit d'une voix douce, voici ta mission, de même que cette dame porte celle de guérir les âmes brisées. J'ai été tellement bénie durant cette nuit et ma maman également, avec qui j'étais en froid, a quand même ouvert son cœur au Saint-Esprit et m'a laissé prier pour elle lorsque le pasteur a demandé de prier les uns pour les autres. Chaque année, je suis toujours puissamment visitée lors de vos soirées de prière. Puisse le Seigneur continuer cette belle œuvre qu'il a commencée avec vous, la rendre parfaite au jour du Seigneur. Merci beaucoup Christelle d'avoir partagé ce témoignage et on se réjouit pour cette guérison que vous avez reçue et aussi le fait que votre maman ait pu ouvrir son cœur. Et je crois que oui, ce temps dans cette conférence a marqué beaucoup les esprits et qu'il y a eu beaucoup de guérison, de consolation et de déblocage aussi dans l'esprit. Et encore une fois, merci à toute la famille des partenaires parce que c'est grâce à vous qu'on peut avoir ces moments et c'est des moments qui peuvent changer toute une vie. Il y a un avant, il y a un après, il y a des personnes qui arrivent ou qui suivent ces lives avec des blessures dans l'âme qui remontent à l'enfance. Là, c'était un temps de ministère par rapport à des gens qui avaient vécu des abus. Et beaucoup de gens ont été puissamment visités, ont pu relâcher le pardon, ont pu expérimenter des guérisons profondes. Et c'est merveilleux de voir ce que le Seigneur a pu faire pendant cette guérison. À ce moment-là, il a fait bien sûr autre chose. Mais merci beaucoup la famille des partenaires parce que c'est avec vous qu'on peut accomplir ces choses. Et si en ce début d'année, eh bien vous aussi, vous voulez rejoindre la famille des partenaires, vous pouvez aller sur emcitv.com/don et je crois que Cédric pourra dire que c'est une bonne chose aussi que de pouvoir semer et que de pouvoir être généreux avec nos finances.
Exactement, et j'aime bien une phrase, je pense, de Rick Warren qui dit, je pense qu'on ne peut pas amener ce qu'on a avec soi, mais on peut l'envoyer d'avance. Donc quand on sème dans des vies aujourd'hui, plus tard, ben une fois lorsqu'on sera devant le Seigneur, ben on récolte. Donc c'est une manière d'envoyer d'avance.
Ah, parfait. J'aurais dû te laisser. Super, merci. Et alors, Cédric, cette année 2026, on va encore prendre de bonnes habitudes. Je sais pas si on va parler de résolution, mais de bonnes habitudes financières. Et j'ai l'impression que plus on avance, plus les années avancent et plus les pronostics sont pessimistes par rapport à l'économie. Beaucoup de gens s'inquiètent pour leur futur. futur immédiat se demande comment est-ce que financièrement on va s'en sortir.
L'accès aux maisons, à l'immobilier.
Exactement, ouais, voilà. Il y a beaucoup de défis à ce niveau-là. Au niveau des requêtes de prière aussi, beaucoup de gens demandent la prière pour une stabilité financière, pour pouvoir, au niveau du logement, au niveau du travail. Donc on sent cette inquiétude, cette précarité. Maintenant, nous savons qu'on a un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins et un Dieu qui est bon et qui nous a donné cette parole que on manquera, cette promesse qu'on ne manquera de rien. Mais on a besoin aussi de cette sagesse et de savoir que avec la foi et avec la sagesse, eh bien c'est là aussi qu'on va pouvoir grandir financièrement et faire des choix intelligents. Alors Cédric, tu es là pour nous éclairer.
Oui, avec plaisir, et c'est un plaisir d'être là et puis de discuter de comment est-ce qu'on peut faire pour prospérer cette année. Donc y a un élément où je pense au niveau de la foi chrétienne, comme tu as mentionné, où Dieu pourvoit, mais on a aussi une responsabilité, à savoir gérer en fait nos ressources, parce qu'il y a deux personnes dans l'équation. Mm-hmm. Dieu fera toujours sa part, mais nous aussi nous avons une part à faire. Et souvent on a tendance à déléguer notre part à Dieu, mais peut-être ce début d'année c'est le moment pour des personnes de dire quelle est la responsabilité que je vais jouer en tant qu'intendant des ressources que Dieu nous a confiées. Et puis peut-être pour amener un élément, moi une des choses qui m'a le plus marqué quand j'étudiais un peu sur la question des finances selon une perspective chrétienne et qui peut-être aider certaines personnes à se reprendre en main, c'est dans l'évangile de Luc, je pense il y a Luc 16, on dit si vous n'avez pas été fidèle avec les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et en fait, on a besoin de comprendre que l'argent est un test de confiance. C'est-à-dire, c'est un test de confiance que Dieu nous fait pour voir quelles sont les véritables richesses qu'ils vont nous confier. Parce que pour nous, peut-être l'argent, c'est beaucoup de choses, mais pour moi, souvent, je dis, l'argent, c'est un peu comme, tu sais, quand t'as un enfant qui est en train d'apprendre à conduire, tu lui donnes pas la meilleure voiture de la maison. Tu prends peut-être le taco qui est là et puis tu lui donnes. Donc, c'est pour tester d'abord. Et donc, on a besoin de savoir qu'au-delà d'avoir une bonne santé financière, c'est un élément spirituel en fait fondamental, que parce que un jour, lorsqu'on va se présenter devant Dieu, il va nous demander qu'as-tu fait avec ce que je t'ai confié, et on va devoir répondre aussi par rapport à la manière dont nous avons géré l'argent. Donc oui, il faut prier, mais il faut aussi rechercher la sagesse pour savoir gérer ses finances en cette année.
Alors une chose, c'est est-ce que j'ai plein de questions, d'accord, mais tu penses quoi des promos, des soldes, des rabais, etc.
Tu commences à penser.
Est-ce que c'est des vraies sources d'économie?
Écoute, moi, je peux faire une blague, parce que moi, les finances, c'est pas mon truc. Quand il y a quelque chose qui est vraiment en promo, je dis à mon mari, je suis obligée de l'acheter. Dieu m'a fait un clin d'œil, c'est en spécial, tu vois. Donc, dis-moi, Cédric, est-ce que je fais bien quand c'est en promo?
Mon mari dit que c'est un piège. Bon, 70%, moins. Mais 70%
De combien? Mais Cédric et mon mari, ils se connaissent très bien, donc il faut que je fasse attention à ce que
Donc, les promos, c'est bien. Si on avait prévu faire la chose.
D'accord.
Moi, je vais économiser.
Si j'avais prévu, par exemple, acheter un objet et que j'attends la promo pour l'acheter que j'ai prévu, à ce moment, c'est une bonne chose. Mais si je l'achète, parce qu'il faut savoir aussi que la personne qui fait la promo a un but. C'est-à-dire, c'est de vous faire acheter. Donc, voilà. Si je rentre dans le magasin et puis que j'avais pas prévu que je vois
ça. Il y a quelqu'un qui a pensé à nous, c'est gentil.
Exactement. Et souvent, je dis, en fait, il y a une phrase où on dit, si vous n'avez pas de plan pour votre vie, d'autres s'en chargeront. C'est la même chose pour votre argent. Si vous n'avez pas de plan pour votre argent, les gars, ils ont des promos pour vous. Donc, ils ont des plans pour votre argent. Donc, les promos ont pour but d'inciter à la consommation. Mais les promos sont intéressantes pour une personne qui avait déjà un plan. OK, je voulais acheter ça, j'avais mis de l'argent, j'attends. Et là, c'est tombé sur une promo. Là, c'est une bonne affaire.
Mais acheter parce qu'il y a une promo alors qu'on n'avait pas prévu d'acheter, finalement, c'est pas une dépense.
C'est pas une dépense de Dieu.
Ouais.
Non, c'est une dépense.
Et t'en penses quoi quand on dit si on a eu un rabais, qu'on a gagné de l'argent finalement?
Oh, on a économisé.
Ouais, mais si j'avais pas prévu acheter la chose, j'ai juste dépensé sur quelque chose dont je n'avais pas besoin.
OK. Bon, d'accord.
C'est vrai, moi je trouve que acheter quand on en a besoin, c'est ce qui est plus important qu'acheter parce que j'en ai envie. C'est vrai que moi, personnellement, j'aime bien. J'aime bien des fois, je regarde, je dis, oh, c'est beau. De temps en temps, je tombe dans ce piège-là, mais j'ai, de plus en plus, je n'achète plus parce que j'ai envie, ou bien c'est beau. J'achète quand j'en ai besoin, parce que je trouve que c'est... En fait, tu achètes, mais tu vas regarder en une année, tu l'as utilisé peut-être une fois. Ça ne sert à rien. On a dépensé pour rien, parce que ça reste là, à la maison, à ne pas être utilisé. De plus, je deviens plus sage avec l'âge.
Et d'après ton expérience, en général, qu'est-ce qui ressort le plus dans les erreurs financières? Comment est-ce que les gens perdent le plus d'argent bêtement?
Différentes choses. La première chose basique, c'est que la plupart des gens n'ont pas de budget, n'ont pas de plan. Les gens, l'argent rentre, ils dépensent. On ne peut pas réussir financièrement si on ne se crée pas une structure financière. Et c'est vraiment la base. C'est d'avoir un budget, un plan. Voici les revenus qui rentrent. Voici comment je prévois les dépenser pour le mois à venir. Tant que je ne fais pas cet exercice-là, c'est difficile de faire autre chose. Et souvent, je dis, il y a une différence entre avoir un moment financier et créer un mouvement financier, créer une dynamique de création de richesse. Beaucoup de gens veulent un moment, c'est-à-dire l'argent qui entre un coup, je tape un jackpot. Mais ça, ça vient et ça part. Si je n'ai pas construit les bases, la dynamique ne va pas se créer dans le temps. Donc, première erreur, c'est de ne pas avoir un plan. Deuxième erreur, je dirais, il y a certaines personnes, en fait, je pense que beaucoup de gens ont accepté la question de la dette à la consommation. C'est comme devenu un phénomène normal. Même souvent, j'écoute à la radio, on dit, si vous n'avez pas, prenez cette carte de crédit au cas où. C'est devenu normal, mais on a besoin de comprendre que il est impossible, c'est pas qu'il est difficile, il est impossible de réussir financièrement si on a des dettes à la consommation. Ça ne marche absolument pas. Parce que pour créer de la richesse, il faut acquérir des biens qui prennent de la valeur. Mais quand vous avez des dettes à la consommation, vous achetez des biens qui perdent de la valeur. Donc vous marchez littéralement en sens opposé à la richesse. Ça fait que c'est impossible. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, vous n'allez pas pouvoir. Donc, il faut être conscient, et je pense que la Bible aussi en parle, pour nous rappeler du danger des dettes à la consommation. Donc, il faut faire attention à ça. Ça, c'est une deuxième erreur, c'est-à-dire banaliser la dette à la consommation. Et là, je ne parle pas d'emprunt pour acheter un bien qui prend de la valeur comme une maison, etc. Je parle plus des biens qui perdent de la valeur.
Donc, du coup, tu es quelqu'un qui s'endette, des petites dettes. Tu sais, pour, une télé, une table, un ordinateur, un téléphone, etc., qui a multiplié toutes ces petites dettes, ça peut être, c'est pas forcément... Tu te dis, c'est une bonne gestion dans le sens où, comme ça, j'ai ce dont j'ai besoin. J'ai peut-être mieux que ce que j'aurais pu acheter avec juste l'argent que j'avais en main. Et puis, je vais gérer mes remboursements. Mais toi, tu trouves que c'est pas la meilleure gestion?
Non, parce que pour des emprunts qui perdent la valeur comme un téléphone, etc., pour des éléments qui perdent la valeur comme un téléphone, etc., c'est pas de la bonne gestion parce que le téléphone, chaque mois, il perd de la valeur. Je l'ai peut-être acheté à 1 000 $, mais dans un an, il vaut pas 1 000 $ si je veux le revendre. Mais ma dette de 1 000 $, elle est là et s'accumule avec des intérêts, parfois à 18%. Donc, j'ai ma dette qui augmente. Et le bien qui perd de la valeur. Donc, je m'enrichis pas. Et en fait, lorsque j'emprunte à la consommation, je dévalise mon futur. En fait, j'emprunte sur mon futur pour mon présent.
C'est ça.
Mais ça va me rattraper avec des intérêts. Et donc, ça, il faut faire attention. Je pense que il faut qu'on comprenne que les dettes à la consommation, c'est un véritable problème et prendre la chose au sérieux. Ne pas banaliser. Deuxième erreur, c'est de ne pas épargner. Mais ça vient ensemble. Souvent, ne pas épargner, avoir des dettes, c'est souvent la même chose. Et une autre erreur qui est un peu plus sournoise, c'est-à-dire que c'est ceux qui épargnent mais qui n'investissent pas. Et ça c'est l'un des pièges
les
plus
sournois. Donc c'est que tu épargnes, t'as de l'argent de côté,
c'est
mais t'en fais rien.
De garder.
C'est ça. Exactement. C'est-à-dire que parce que souvent, certaines personnes n'ont pas de dette. Il y a des personnes qui nous écoutent actuellement et n'ont pas de dette à la consommation. À chaque mois, elles réussissent à mettre de l'argent de côté. Mais elles pensent qu'elles sont correctes.
Ouais.
Non, vous n'êtes pas correcte. Il y a un problème.
Moi, je suis déjà parce que...
parce qu'il y a un problème. Et oui, on épargne pour avoir ce qu'on appelle le fonds d'urgence, qui est une épargne de 3 à 6 mois, pour avoir quand même un peu de liquidité si on a des imprévus et choses comme ça. Mais pour des éléments à plus long terme, mm-hmm. il faut commencer à investir. Pourquoi? Parce que l'argent perd de la valeur. Je pense que vous avez tous fait les magasins les derniers temps au cours shopping. Des années, le shopping, l'épicerie, et vous avez constaté que le prix du lait a augmenté, ouais, le prix des eaux a augmenté, le prix pour l'argent pour se soigner, ça coûte plus cher, tout coûte plus cher. Mm-hmm. Donc même si vous avez épargné 50 000 dollars, mettons une grosse somme d'argent que vous avez épargné, vous l'avez posé depuis 2-3 ans. Mais le coût de la vie a augmenté. Mm-hmm. Il ne fait qu'augmenter. Mais vous, votre argent, il ne suit pas. Ça veut dire que vous vous appauvrissez, en fait, dû à l'effet de l'inflation. Et souvent, on appelle l'inflation la taxe à l'appauvrissement. C'est-à-dire qu'à chaque année, l'argent, le coût de la vie augmente. Mais toi, ton argent, il n'augmente pas. Donc, tu t'appauvris, en fait. Mm. Donc, certaines personnes pensent qu'à avoir une pile d'argent qui est devant elles, qu'elles regardent, et puis, ouh, c'est joli, là j'ai 50 000 dollars. Non, en fait, en réalité, tu t'appauvris avec sérénité, de manière silencieuse, avec sérénité.
Sans t'en rendre compte.
Donc, exactement.
Tu t'en rends pas compte.
Exactement. Et donc, ce qu'il faut faire en ce moment, quand c'est pour des projets à long terme, mettons quelque chose qu'on veut faire peut-être dans 5 ans ou préparer sa retraite, en ce moment, il faut passer de l'épargne à l'investissement. Donc, je ne dis pas que l'épargne n'est pas une bonne chose. Ouais. Épargner dans un compte d'épargne classique et tout, c'est important pour des choses à court, moyen terme.
Une partie de ton épargne doit servir à l'investissement.
Exact.
Maintenant, tu comprends que c'est aussi un risque de... Tu comprends, Cédric ?
Exactement !
Que ça peut être un risque d'investir et qu'on a tous entendu des histoires. J'ai investi, j'ai perdu, etc. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent faire dormir leur argent. Au moins, tu te dis, j'ai pas l'impression de m'appauvrir, même s'il dit que je m'appauvris. Mais au moins, l'argent, il est là. Parce que si je l'investis, ça se peut que, en fait, je vais le perdre demain.
Exactement. C'est une bonne question et c'est une bonne perception. Parce que beaucoup de gens voient l'investissement de cette manière. Et je vais peut-être parler un peu plus de l'investissement en bourse, qui est quelque chose que je connais beaucoup plus. Et en fait, si on regarde les statistiques, à long terme, si vous investissez à long terme, sur des horizons de plus de 10 ans, vous avez plus de 80% de chances de faire des gains. C'est-à-dire qu'à long terme, la tendance des marchés est à la hausse. À court terme, ça vacille. Par exemple, on dit qu'en moyenne, les marchés financiers, que ce soit en Occident ou en Afrique, en général, en moyenne, généralement, on parle de 8 à 10%. C'est un 8 à 10% sur plusieurs décennies. C'est-à-dire que une année, ça peut faire moins 20, mais une autre année, ça peut faire plus 20. Mm-hmm. Et puis, ça aussi. Donc, si je suis là à long terme, je gagne. Mais si je suis là à court terme, mm-hmm. le risque est présent. La deuxième chose que je dirais, c'est que c'est une vue d'esprit qu'on a. Je vais reformuler le problème d'une autre manière. Donc, ayant dit cela, tu as 80% de chance, mettons, sur des horizons de long terme, voire plus tu avances, j'avais vu des statistiques où on disait, au-delà de 20 ans, tu as 99% de chance de gain. Mm-hmm. Donc, si on dit cela, et que je te dis, quand tu mets de l'argent, je te présente 2 options. Mm-hmm. Une option où tu es garanti de t'appauvrir, et une option où tu as probablement la chance de t'enrichir. Qu'est-ce qui est plus risqué, selon toi?
Est-ce que c'est une question piège?
On est avec toi, Annabelle. On est
suspendu. Je suis derrière toi, Annabelle. Vas-y.
Vas-y. Tu nous représentes. Vas-y, Annabelle.
Oui, j'apprends la deuxième option.
La deuxième option. Donc, laisser son argent dans son compte d'épargne pendant 10 ans, c'est choisir l'option d'une pauvreté garantie. C'est la mort certaine de votre argent. C'est-à-dire, vous avez décidé de garantir la mort de votre argent, de garantir que vous serez pauvre.
Ah bon?
Oui, parce que vous êtes sûr que l'inflation va tailler cet argent. Donc, c'est sûr que vous allez vous appauvrir. Il n'y a même pas de discussion à ce niveau. Mais quand vous décidez d'investir, vous prenez le risque, la possibilité de vous enrichir, de créer de la richesse. Et plus vous vous positionnez sur du long terme, plus vos probabilités de gain sont élevées. Donc, Ça dépend de comment est-ce qu'on regarde le problème.
Mais comment on fait, du coup, pour investir?
Oui, investir dans quoi
dans
exactement
quoi? Sagement. Parce que déjà, quand on investit dans nos enfants, qu'on investit dans plein de choses, investi dans le royaume de Dieu, on a investi, moi j'ai investi.
C'est ça, et investir pour la retraite et tout. Donc dans quoi investir? C'est une bonne question. Il y a différentes options d'investissement. Il y a les classiques, c'est l'immobilier, c'est l'entrepreneuriat et la bourse. Trois grands piliers. Bon, ils sont bien, chacun, qui conviennent à différentes personnes. Maintenant, pour la plupart du commun des mortels, je dirais la bourse. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est bien. Mais l'immobilier, ça demande des gros sous pour entrer. Mmh. Donc, ça demande quand même une certaine mise de fonds pour entrer que tout le monde n'a pas nécessairement. L'entrepreneuriat, c'est bien, mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Mmh. Et puis, ça demande aussi un certain temps d'investissement. Mmh. Okay. Par contre, la bourse, avec 50 $, 50 €, vous pouvez commencer en bourse.
C'est intéressant.
Ouais. Vous pouvez commencer en bourse et puis.
Attends,
j'étais au téléphone pour 3 heures.
Donc, les discussions qui vont avoir lieu. Alors, donc avec 50 $, on peut commencer en bourse.
Voilà.
Et contrairement à ce qu'on pense, souvent on voit les traders dans les films.
Ouais. Non. Des gros montants.
Là, ils perdent
oui,
tout.
Ça. Ouais.
Il y a un mais gros crack.
C'est ça. Tout sur les oreilles.
Ils ont tout
tempête
perdu. Après, ils partent tous ça avec un carton, avec leurs affaires.
Ouais. Exactement.
Ouais. C'est parti.
Exactement. Donc, on voit ça souvent à la télé. C'est ça qui fait parfois peur. Les gens se disent, ah, si je dois investir, il faut que je sois tout le temps là avec mon téléphone, tout ça. Mais non, les gens n'ont pas le temps pour faire ça. Ils ont une famille dont ils doivent s'occuper. Ils ont un travail. Il y a différentes manières d'investir. Et d'ailleurs, la manière certaine d'échouer en bourse, c'est de suivre ce qu'on voit sur Wall Street. Genre, ceux qui font un peu ce qu'on appelle le stock picking. Mmh. Vouloir choisir quelle action va monter, descendre, etc. Parce que vous ne savez pas, personne ne sait ce qui va arriver demain. Il y a quelques années, si vous vous souvenez de, je pense, Nokia et tout, c'était des compagnies qui étaient en vogue, mais qui ont disparu. Donc, vous pouvez croire que quelque chose aujourd'hui est top, mais dans 10 ans, personne ne connaît le lendemain. Mm-hmm. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faudrait, la meilleure approche, c'est d'investir dans des fonds. Il y a ce qu'on appelle des ETF, ou des fonds négociés en bourse. C'est comme un panier qui comporte des actions de plusieurs compagnies. Par exemple, vous avez un des indices phares en Amérique du Nord qu'on appelle le S&P 500. En Afrique aussi, il y a différents indices, le BRVM 30, etc. Donc, c'est comme si on prenait un panier. Vous trois, vous avez 3 entreprises. Bon, on me dit d'investir. Moi, je ne sais pas laquelle des 3 entreprises va réussir.
BMW.
Donc, ce que je
moi,
dis...
Moi, je vigerais sur la date,
Donc, ce qu'on dit, ben, OK, on va créer un panier où les 3 entreprises vont être à l'intérieur. Donc, quand j'investis mon argent, j'investis dans chacune de vos entreprises. Et donc, à long terme, ce que les études montrent, c'est que l'économie a tendance à croître. Donc, quand j'investis dans un fonds, j'ai beaucoup de chances de réussir à long terme. Et je diversifie mon risque. Et ça, c'est d'ailleurs un principe qu'on retrouve, je pense, dans Ecclésiaste, où il dit, jette ton pain sur la face des eaux, donne ça une part à 2, 3, 7, etc. Non, c'est le principe de la diversification. Ne mets pas tout dans un panier, mais diversifie. Et donc, investir dans des fonds, dans des ETF, c'est une manière simple de diversifier. Et ça ne prend pas du temps. Vous avez un fonds, ça vous prend moins de 30 minutes par mois. Vous avez un fonds, vous virez l'argent de votre compte chèque à votre compte de placement, vous achetez le fonds et puis le travail se fait. Et d'ailleurs, les études montrent que ceux qui s'occupent le moins de leur placement sont ceux qui réussissent le plus.
Ça serait bon pour moi.
Ça paraît intéressant, là.
OK.
Mais du coup, au bout de combien de temps on peut récupérer cet argent
à long terme? Moi, je vois, long terme, c'est combien de temps?
Je sais pas, tu sais, mettons, quelqu'un là à la retraite qui a 75 ans, est-ce que ça vaut encore la peine en se disant qu'on va vivre longtemps? Mais est-ce que ça vaut encore la peine ou c'est le genre d'investissement, bah, si tu l'as pas commencé quand tu avais 30 ans, ça vaut plus trop la peine?
Non, tu peux toujours commencer à tout moment. On dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, on peut commencer.
T'as plein de
Annabelle. Annabelle, pas de restaurant cette année. On prend cet argent.
On investit.
On investit en bourse.
Exact. Donc,
on fait le point dans un an qui a rapporté.
On fait une réunion devant la voiture. Pas de restaurant.
Excusez-nous, Cédric. On est là. On est là. C'est bon.
Donc, oui, on peut commencer. C'est sûr que plus on commence tôt, en fait, moins l'effort à mettre est important. Mais plus on commence tard, plus il faut mettre d'argent. Par exemple, j'avais fait les calculs rapides. Quelqu'un qui a 25 ans, qui investit $300 par mois, $300 par mois jusqu'à l'âge de 65 ans, 40 ans à peu près d'investissement. $300, on suppose que son salaire ne va pas augmenter, ce qui n'est pas vrai probablement, son salaire va augmenter, il va avoir plus de capacité et tout. Donc $300 durant 40 ans. Investi dans un fonds qui rapporte 8% à peu près en moyenne. Au bout de 65 ans, il a $1 million à raison de $300 par mois.
Au tout,
$1 million.
Avec les 8%.
Avec les 8% à cause de ce qu'on appelle le pouvoir des intérêts composés. C'est-à-dire, c'est des intérêts qui se calculent sur des intérêts au fur et à mesure. C'est comme, en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que si j'investis $1000 à 10%, par exemple, le $1000 va générer au bout d'un an $100. Mais dans la deuxième année, le $1000 et le nouveau $100 vont générer des intérêts. C'est un peu comme si j'avais un troupeau où j'ai la génération des parents, j'ai la génération des enfants, et chaque année, chaque génération continue de procréer. Les parents continuent de procréer ad vitam aeternam, les enfants, les nouveaux enfants, et ça fait que ça se multiplie. Et donc, plus je donne du temps à mon argent de travailler, plus il a comme une longue distance pour se multiplier. Et donc, à raison de $300, j'aurais mis à peu près $150. Ça, c'est mes $300 sur 40 ans, j'aurais mis à peu près $140 000. Mais j'aurais eu 1 million. Ça veut dire que $900 000, c'est juste des intérêts. 90% de ma richesse a été créée juste parce que j'ai été discipliné à mettre $300 à chaque mois. Et puis, j'ai commencé tôt et j'ai laissé le temps faire son effet. Je peux avoir le même résultat si je commence à 40 ans. Mais c'est juste que je n'aurais pas à mettre $300. J'aurais en ce moment besoin de mettre un peu plus que $300. Peut-être $700 ou autre. Donc, j'aurais besoin. Donc, plus je commence tôt, plus j'ai moins d'efforts à faire. Mais c'est possible. Et souvent, j'avais vu l'histoire d'un monsieur qui avait commencé à, je pense, à 50, 60 ans, quelque chose comme ça, et qui a terminé millionnaire, mais il a eu 90 ans. Et donc, ce que moi je dis, c'est que personne ne sait quel est le dernier jour qu'il a sur Terre. Donc, pendant que tu es là, sème, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Peut-être que Dieu a prévu que tu as 60 ans, mais peut-être que tu vas vivre encore 30 ans. Donc, comme tu ne sais pas, ça commence aujourd'hui.
Ouais, okay. Moi, je pensais que que je mets à 1000 et puis c'est fini. C'est chaque mois.
Ouais, la bonne approche, c'est de répartir dans le temps son argent, de le mettre à chaque mois. Maintenant, il y a certaines personnes qui ont des grosses sommes d'argent, peut-être quelqu'un a $100 000 et puis décide de mettre le $100 000 tout de suite. Mais émotionnellement, c'est émotionnellement difficile parce que si t'as $100 000 et puis tu le mets un coup et puis là tu vois que le marché est en train de tomber, la tentation à vendre est
sûr, artérielle.
Elle monte.
La tension dans le mariage aussi.
C'est ça.
Donc,
généralement, on recommande de lisser dans le temps, de mettre des montants.
Ouais. Oh, wow. Écoute, c'est très intéressant. Donc, vraiment, c'est sécuritaire, tu dis.
À long terme, oui. Mais si on se met à court terme, c'est dangereux.
D'accord, ok. Ouais. Bon, une autre question. Qu'est-ce qu'on pense des systèmes pyramidaux qui sont censés rapporter beaucoup d'argent, un peu de temps, etc.?
Ça, c'est dangereux.
C'est
dangereux. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui le font.
Oui.
Et ça, c'est un peu basé sur l'appât du gain. La manière, c'est les systèmes à la Ponzi, comme on les appelle. C'est-à-dire, c'est bon parce que ça permet de sensibiliser un peu ceux qui nous écoutent par rapport à ça. Si vous voyez une opportunité où on vous garantit des taux à de 8%, 10%, etc., garantie, c'est probablement une arnaque. Parce qu'il y a une loi en finance qui dit que le risque et le rendement vont ensemble. Mm-hmm. Si tu veux plus de rendement, tu dois prendre plus de risques. La raison pour laquelle le banquier vous donne 3% sur votre compte d'épargne ou 1%, c'est parce que vous ne prenez aucun risque. Mm-hmm. La raison pour laquelle la bourse peut vous donner du 8 ou 10%, c'est parce que vous acceptez de prendre un risque. Donc, quelqu'un qui vous dit, moi, je te garantis un rendement.
Juste le rendement, mais ouais, sans le risque.
C'est ça, ça ne marche pas. L'équation ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Parce que tu vois, avant, je trouve, le système pyramidal, il y a plusieurs années, était comme évident. On te présentait, tu comprenais vite, mais je trouve qu'aujourd'hui, la manière dont c'est présenté, c'est comme t'as pas. En fait, il y a plein de gens qui se sont fait avoir et qui, après coup, disent mais en fait, c'était un système pyramidal, mais j'avais pas compris parce qu'on me l'a pas vendu, on me l'a pas présenté de cette façon-là. Avant, c'était comme très évident, mais aujourd'hui, c'est comme ficelé, comme on me présente des bonnes affaires, des investissements, etc. Donc, c'est ça, on va le reconnaître parce qu'on te propose juste le rendement sans le risque.
Et surtout, on te dit c'est garanti, t'es sûr de gagner. Moi, je peux pas garantir à quelqu'un qu'il va gagner à 100% s'il investit.
Mais il y a des gens qui gagnent quand même dans ces systèmes.
Oui, la manière dont ça marche, c'est que c'est les premiers qui gagnent. Parce que comment ça marche? C'est que, mettons, la personne arrive et dit, Annabelle, je te garantis que tu vas avoir, si tu mets 1000 dollars aujourd'hui, tu vas avoir 2000 dollars dans un mois. Mm-hmm. Et comment ça marche? C'est que Annabelle va me mener 1000 dollars. Je vais m'arranger pour essayer d'avoir de l'argent avec Stéphanie et Nadège.
Hey,
et
puis on paye Annabelle.
On paye Annabelle. Mm. Et puis, le problème va se passer quand les derniers vont venir. Et la manière dont ça marche aussi, c'est je vais faire en sorte que Annabelle se sente en confiance pour qu'elle se dise, elle a donné 1000 dollars. Après un mois, elle est venue, elle a pris 2000 dollars. Annabelle va aller voir Jérémy. Elle va dire, mais écoute, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas un peu plus d'argent dedans. Et là, Annabelle va venir avec 5 000. Voilà. Mmh. Et là, je reçois encore plus. Et donc, le but, c'est de mettre en confiance les gens afin d'amener. Donc, les premiers vont gagner, mais les derniers qui vont vouloir, ben, ils ne vont pas gagner parce que, en réalité, je ne crée rien.
Ils vont appeler l'argent d'une personne.
Donc, les
gens qui sont les derniers, littéralement, perdent leur argent.
Exact.
Mais il y a des gens qui ont perdu.
Et il y a des gens qui ont perdu. Il y a eu un scandale qui a fait les manchettes au Bénin il y a plusieurs années de cela. Il y a des gens qui ont perdu des centaines de milliers. C'était grave. Et même il y en a régulièrement. Donc partout, on en entend. Donc c'est grave. C'est grave parce que c'est des épargnes, c'est de toute une vie qui sont perdues.
Ouais. Mm-hmm.
Et surtout, on met les gens en confiance et à un moment donné, ils vont prendre toutes leurs épargnes, ils donnent et puis.
Bah après, on met les gens en confiance, mais tu vois, mettons, si on prend ton exemple, c'est que moi, je peux me dire, ça a marché pour moi, je vais en parler à quelqu'un d'autre. Mm-hmm.
C'est
pour l'aider. Mais en fait, je participe à tout un système pour dépouiller les gens.
Exactement. Oh. Exactement.
Donc ça, on dit non à ça, c'est pas une bonne opportunité.
Non, à chaque fois que vous allez voir quelqu'un qui va vous proposer des rendements qui semblent exorbitants, qui sont garantis, si on vous dit du 3%, du 5% à la limite, c'est des choses, ok, 3, ça va, c'est des comptes d'épargne classiques. Mais quand on commence à rentrer dans des deux chiffres, 10%, 11%, etc., garantis, c'est souvent, il faut faire attention à ça. Et puis, il faut aussi poser la question à la personne, comment tu gagnes cet argent?
Tu fais quoi pour
essayer d'avoir plus d'informations? Il faut que la personne soit capable de vous expliquer. Et un des premiers principes fondamentaux en investissement, c'est de ne jamais investir son argent dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Mmh. N'investissez pas dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Il faut que vous ayez un minimum, vous n'avez pas besoin d'être un expert, mais il faut que vous ayez un minimum pour savoir okay, comment cet argent-là se gagne.
Mmh. Ok. D'autres questions?
L'immobilier, comme je me disais, des fois, comme tu dis, c'est sûr que ça prend une mise de fonds, mais on voit comment les prix ont augmenté des fois, parce que quand tu achètes, mettons, tu n'as pas accès à l'immobilier, c'est difficile, mais quand tu peux y avoir accès, je pense que c'est une bonne source de revenus, ça.
Pour investir pour le
locatif. Oui, mettons, tu as une maison, puis tu dis, moi, je vais acheter peut-être un duplex, tu vois, maison, et là, je le vais louer. Ça peut être une bonne...
Oui, c'est une autre avenue aussi d'investissement.
Mais ça vaut la peine, tu crois, ou ça dépend?
Si,
ça dépend du marché?
Ça dépend du marché. Si vous allez faire vos calculs pour voir si vous êtes capable de, de rentabiliser un peu. Aujourd'hui, bon, avec le prix de l'immobilier et tout, il faut bien faire ses calculs, mais ça vaut la peine. À long terme, ça vaut la peine. L'immobilier demeure un pilier d'investissement.
Ouais.
Mais c'est juste que c'est plus lourd.
Bien, quand tu commences dans la vie, est-ce que c'est vrai que le plus tôt que tu peux t'acheter une maison, c'est ce qu'il y a de mieux? C'est un bon placement pour un couple, un jeune couple qui commence?
Ça dépend. La maison dans laquelle on habite, moi, je la vois pas comme un placement.
Non.
À moins qu'on ait l'intérêt et l'intention de vendre la maison à un moment donné pour en vivre. Parce que il y a une différence entre la maison où j'habite et la maison, les maisons que je loue. Ce qui est un investissement, c'est les maisons que je loue. Mmh. La maison que j'habite, c'est pas un investissement en tant que tel. C'est un actif que je possède, mais un investissement, c'est quelque chose qui est supposé qui va me générer quelque chose. Ouais. Mais si c'est quelque chose que j'ai acheté où je me dis, bon, je compte passer mes vieux jours là-dedans, etc. En ce moment, c'est pas un investissement. Mais c'est quand même une bonne chose d'avoir une propriété si on peut se le permettre. C'est juste qu'il faut toujours le faire en ayant la capacité d'investir dans autre chose qui va nous générer des revenus plus tard.
Tu vois, à mon époque aussi, ils disaient c'est que le plus rapidement tu payes ta maison, le mieux c'est. Mais maintenant, ça change un peu. Tu peux mettre plus de temps pour payer ta maison puis aller investir aussi.
Pour, mettons, prolonger l'hypothèque.
Ouais.
Généralement, le plus tôt, le mieux.
Tu payes ta maison?
Ouais, parce que les intérêts qu'on paye là-dessus sont quand même assez... Je pense que j'avais fait un calcul une fois avec un ami. Je pense que quand on repoussait sur des 30 ans et tout, on se retrouvait quasiment à payer deux fois le prix de la maison.
Tu vois, c'est ça qui fait Cédric avec ses amis. Des intérêts. Il est pour des calculs, genre, j'ai des intérêts, allez, vas-y, fais un groupe.
En fait, mon mari, c'est un de ses amis, tu vois, donc... Ils sont encore à l'église, ils se sont bien amusés. Ils ont aidé beaucoup de gens à l'église. Je précise que Cédric a été beaucoup une aide très, en tout cas, des gens de l'Église qui avaient besoin et puis qui les ont vraiment aidés de sortir de leurs conditions financières.
Ben justement, là, il ne me reste pas beaucoup de temps. Mais quelqu'un qui n'a pas fait de budget, qui est endetté et qui n'a pas d'épargne et qui n'a surtout pas investi, ce serait quoi les premiers pas pour pouvoir commencer à s'en sortir?
Les premiers pas, dépendamment, supposons que la personne a des dettes, elle n'a pas d'épargne, elle n'a pas. Donc, c'est de relaxer déjà. On va manger l'éléphant une bouchée à la fois. C'est-à-dire, faut pas, ça va prendre du temps, mais l'essentiel, c'est de commencer, c'est de s'engager dans le processus. La première chose, je dirais, c'est déjà l'exercice, le défi. Je vois que souvent, vous lancez des défis parfois.
Stéphane. Ça, c'est moi qui l'ai dit.
Le défi qu'on peut lancer pour peut-être cette personne qui, c'est pour les deux, trois prochains mois, commence à prendre en note tes dépenses. Où tu dépenses? Mmh. Où ton argent va. Donc, combien tu gagnes, où ton argent va. Ça, c'est la première étape, parce qu'il faut avoir une visibilité. Et la deuxième chose, c'est de s'établir un objectif. C'est quoi mon objectif, peut-être, pour la prochaine année? D'établir un plan, par exemple, pour quelqu'un qui a des dettes à la consommation. Souvent, moi, ce que je vais leur dire, premier petit objectif, c'est de se créer une mini-épargne. Qui équivaut à peu près peut-être à 50% de vos dépenses mensuelles. Donc, mettons quelqu'un qui dépense 2 000 $ par mois, je vais peut-être dire, OK, donne-toi comme objectif peut-être d'avoir 1 000 $ comme épargne, qui va s'accumuler sur plusieurs mois, on va pas le faire une fois, mais c'est l'objectif. Et donc, on va établir un budget, on va dire, la manière dont je dépense actuellement, qu'est-ce que je dois changer dans mes dépenses pour être capable de pouvoir mettre peut-être 50 $ par mois dans un compte d'épargne, ou quel autre type de revenu je peux aller gagner pour pouvoir mettre cet argent. Donc, ça va être la première chose, faire le budget pour essayer d'atteindre cet objectif-là. Par la suite, une fois qu'on a fait cette mini-épargne, là, on va commencer à devenir un peu plus agressif pour rembourser les dettes. Donc, avant, on paye juste le minimum requis. Et ça peut paraître contre-intuitif que je parle d'épargne avant de faire de payer les dettes, mais c'est un peu... C'est un peu sensé, dans le sens que l'une des raisons pour lesquelles les gens tombent dans la dette à la consommation, c'est parce qu'ils n'ont pas d'épargne. Mm-hmm. Un imprévu arrive, et puis je vais chercher sur la carte de crédit. Donc si je veux casser le cycle, il me faut créer un petit coussin pour que si des imprévus arrivent, je puisse amortir. Donc on ne va pas se créer une grosse épargne pour commencer, mais un petit truc, et puis on va devenir agressif sur les dettes. Et puis une fois qu'on a fini les dettes, Ça peut prendre une année, deux années, mais c'est de persévérer. Et puis là, on va faire notre épargne de 3 à 6 mois, le fameux fonds d'urgence, une épargne beaucoup plus conséquente. Et une fois que ça c'est fait, là, on peut commencer à parler de choses un peu plus grosses comme acheter une maison, investir à la bourse, etc. Donc, ce serait le chemin que je préconiserais pour quelqu'un qui veut commencer.
Ben merci beaucoup Cédric. Écoute, encore de très bons conseils.
Mais très intéressant.
Donc, oui.
On ne veut pas dévaliser notre futur parce que on consomme sans réfléchir avec toutes les promos qui nous sont proposées. Terminé, Nadège. Investissement.
Tous les mois. Pas juste les mois de chaque.
Rappelez-vous, juste une épargne, c'est une garantie d'appauvrissement. C'était la mauvaise nouvelle de cette émission. merci Cédric d'être venu. Non, mais c'est super, c'est des bons conseils. Ouais. Et malheureusement, c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Et quelquefois, on l'apprend tard dans la vie après avoir pris de mauvaises décisions. Donc, on revient au conseil que tu avais donné, c'est de pouvoir faire un budget. Après, c'était quoi?
Faire ce que j'appelle un mini fonds d'urgence.
Voilà.
Ensuite, rembourser, c'est à la consommation. Ensuite, faire un fonds d'urgence complet. Et puis, passer par la suite maintenant aux gros articles comme la maison, l'investissement en bourse, l'investissement pour les études futures des enfants, des choses comme cela.
Et c'est bien, plus on le sait tout. Moi, des fois, c'est des choses qu'on ne savait pas. Si on l'avait su plus tôt, je serais plus riche.
Merci beaucoup, Cédric. Donc, on peut retrouver aussi toutes tes informations sur ton site, cédriczongon.com et où tu dispenses des formations. On peut te contacter aussi pour des conseils, pour du coaching. Et comme Stéphanie l'a dit, tu as déjà aidé beaucoup de personnes à pouvoir se remettre sur pied financièrement. Et c'est une grande bénédiction parce qu'on sait que ça peut être une grande source de stress et d'inquiétude quand on a des dettes et qu'on se dit mais comment est-ce que je vais m'en sortir. Donc avec de la sagesse comme Cédric peut vous la partager et aussi avec la foi bien sûr en Dieu qui est capable de faire au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Mais comme Cédric l'a dit, Dieu va faire sa part, mais nous aussi on a notre part à faire. Alors merci Cédric d'être venu. Écoute, et peut-être de l'année prochaine,
on va savoir si on aura investi peut-être.
Exactement,
un peu.
Je veux venir voir les placements de Nadège.
Mais bon, ça, on ne pourra pas faire ça.
Exactement.
Merci beaucoup, Cédric.
Ça fait plaisir.
Allez, bye-bye, on vous laisse sur votre budget ce week-end. Bye-bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.